Radio Okapi. Le journal présenté par Jocelyne Moussaou Pondé.
La politique, ce n'est pas simplement les élections, c'est au quotidien. Propos de Bintou Keïta aux femmes leaders congolaises dans les domaines politiques et des médias ainsi que des femmes leaders d'opinion. La chef de la MONUSCO a échangé avec une cinquantaine d'entre elles hier mardi à Kinshasa. Une motion de défiance initiée contre le ministre de l'économie par un groupe des députés nationaux de l'Union Sacrée. Il doit s'expliquer, entre autres, sur la hausse des prix de produits de première nécessité depuis plus d'un an et surtout la non-adhésion du ministre à la vision du chef de l'État de créer les millionnaires au pays. José Mpanda, ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, est notre invité. Il revient sur la première conférence sur la gestion des volcans des Virunga tenue à Goma. Bonjour à tous. Bravoure, détermination, innovation, sens d'écoute, solidarité, considération des autres sont autant des vertus dont devraient faire preuve des femmes leaders dans tous les domaines, notamment celui de la sphère politique. C'est ce qu'on peut retenir des échanges que la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC, chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, a eu hier mardi à Kinshasa avec une cinquantaine de femmes leaders congolaises dans les domaines politiques et des médias ainsi que des femmes leaders d'opinion. Reportage d'Honoré Missenga Kalala.
Plus de deux heures d'échange. Cadre choisi, la salle Town Hall du texte 2, deuxième quartier général de la MONUSCO à Kinshasa. Améliorer le leadership féminin en RDC, c'est le thème du jour. Pour Bintou Keïta, cette rencontre est une suite d'un programme commencé en novembre 2021 en prévision des échéances électorales de décembre 2023. La chef de la MONUSCO recadre cependant les choses.
La politique, ce n'est pas simplement les élections, c'est au quotidien comment est-ce qu'on fait la politique dans les différents domaines de la vie.
Parmi les qualités d'une femme leader mise en évidence au cours du débat, la responsabilité. Selon l'une des invitées de marque, Marie-Josée Ikofo, pas de doute, toutes les femmes naissent avec.
On voit que c'est la jeune fille qu'on a tendance à envoyer, c'est la jeune fille qu'on a tendance à demander de prendre soin des siens, de ses frères et sœurs. Donc dès le bas âge, la jeune fille est déjà responsable.
La candidate malheureuse à la présidentielle de 2018 relève quand même ce qu'elle considère comme la plus grande faiblesse des femmes.
Mais ce que j'ai constaté chez nous les femmes aussi, c'est ce manque d'unité et de solidarité.
Journaliste de profession, Chantal Kanimbo, l'autre invitée de marque insiste quant à elle sur les atouts des femmes.
On a des atouts extraordinaires naturellement.
À la fin du débat, un vœu général se dégage de cette rencontre. Organiser ce genre d'échanges et les élargir à d'autres catégories de femmes leaders de la RDC.
La femme du Grand Nord Kivu doit marquer sa présence au sein des services de sécurité de notre pays en vue d'espérer à l'occupation un jour des postes de commandement au sein de l'armée et la police qui militent pour la restauration de la paix dans la région. C'est la déclaration faite hier mardi à Butembo par Rose Touombeane, coordinatrice de la dynamique des femmes pour la bonne gouvernance d'IFEGU en sigle. C'était lors d'une activité du bureau urbain du genre, famille et enfants en collaboration avec la MONUSCO dans le cadre des activités du mois de la femme. Sadiki Aboubakar, reportage.
De nombreuses femmes, membres des différentes associations et organisations professionnelles dans la ville, ont pris part à cette activité présidée par l'autorité urbaine. Tous les débats ont tourné autour de la résolution 1325 des Nations Unies. Rose Touombeane appelle ainsi ses pairs à s'enrôler dans la police et l'armée nationale.
Partout où je passe prêcher la résolution 1325, c'est-à-dire femmes, paix et sécurité, j'insiste à montrer aux filles qu'elles doivent s'impliquer, doivent s'enrôler dans l'armée nationale et des institutions qui ont la charge de la sécurité. Parce que tant que les femmes ne sont pas là, même les promotions, les grades ici que nous sommes en train de revendiquer, nous n'aurons pas vraiment beaucoup de femmes qui vont accéder à cela.
Emery Tibi, responsable du bureau genre au sein de la MONUSCO Grand Nord Kivu, affirme que les femmes de cette partie de la province ont énormément contribué dans le processus de la pacification de la région. Elles méritent donc l'accompagnement.
Pour que la femme arrive à jouer son rôle conformément à la résolution 1325, nous pensons que la femme doit être mise dans des conditions telles qu'elle puisse agir. La femme doit être consultée pour qu'elle arrive à donner son point de vue.
Les participantes ont loué l'accompagnement de la MONUSCO dans le cadre de l'autonomisation de la femme dans le Grand Nord Kivu. Butembo, Sadiki, Aboubakar, Radio Okapi.
Une motion défiance est initiée contre le ministre de l'économie nationale, Jean-Marie Kalumba, par un groupe de députés nationaux de l'Union sacrée. Selon Élisée Ntamboué, l'un des députés qui soutiennent cette motion, plusieurs griefs lui sont reprochés, entre autres la hausse des prix de produits de première nécessité depuis plus d'un an, la mauvaise gestion de 20 millions de dollars déboursés pour l'importation des chinchards et surtout la non-adhésion du ministre à la vision du chef de l'État, celle de fabriquer des millionnaires au pays. Suivez Élisée Ntamboué, député membre de l'Union sacrée.
Je vais prendre quelques points que nous reprochons au ministre. Manque d'adhérer à la vision du chef de l'État qui a promis aux Congolais de leur faire des millionnaires, alors que la politique économique est entre les mains du ministre. Deuxième point, la non-application des lois en rapport avec le petit commerce et les commerces de détail. Troisième point, du compte du trésor public ou l'achat des chinchards. Cet argent, après l'avoir déboursé, les chinchards n'ont pas été distribués, ont été revendus. Qui a revendu les chinchards? À quel prix? Quel est le montant qui a été récolté? Où est-ce que le ministre a mis ce montant-là? Et nous parlerons aussi de flambée des prix, que vous voyez, ça fait presque une année que les prix ne font que augmenter.
Pourquoi seulement le ministre de l'économie? Vous ne chargez pas tout le gouvernement, mais seulement le ministre de l'économie? Pourquoi?
Oui, c'est lui le ministre sectoriel. Tous les gouvernements, c'est pas tout le monde qui ne fait pas quelque chose. Il y a le ministre qui font quand même les efforts ou qui font la différence.
En réaction, la députée nationale Solange Nienyesi, rapporteure de l'AFDCA, qui est membre de l'Union sacrée également, tout en reconnaissant le droit du contrôle parlementaire à ses collègues initiateurs de la motion, estime cependant qu'ils sont allés à l'extrême. Selon elle, les initiateurs de cette motion ont devait commencer par une question écrite, ensuite une interpellation et non demander le départ du ministre qui du reste a le mérite de la baisse du prix du billet d'avion ainsi que du prix des produits pharmaceutiques qui donnent accès aux soins de santé primaire. Solange Nienyesi ajoute que la flambée des prix dont parlent ses collègues sont le fait de la guerre en Ukraine ainsi que la pandémie du coronavirus. Suivez.
Le ministre de l'économie qui est visé par une motion de défiance. Défiance, ça veut dire automatiquement il doit partir. Le contrôle parlementaire a plusieurs étapes. Nous avons la question écrite, nous avons la question d'actualité, nous avons l'interpellation et ensuite une motion de défiance. Le ministre de l'économie, qui du reste, je peux peut-être observer à son actif la baisse des prix des billets d'avion et le processus de régularisation de prix de médicaments pour l'accès universel aux soins et tant d'autres faits positifs. Mais je dénonce aussi des faits qui ne sont pas positifs, tels que l'approvisionnement en produits alimentaires. Nous les dénonçons et nous pensons que notre rôle, justement, c'est de poser des questions pour qu'ils répondent. Pas directement une motion de défiance que nous risquons de croire qu'elle est alimentée par ceux-là qui veulent maintenir la hausse de prix et garder le monopole de la vente de produits alimentaires.
Ce dossier est signé Blaise Shindani Kambala. Une double initiative parlementaire du député Jackson Haoussé sur la table du président de l'Assemblée nationale. L'élu d'Irumou interpelle le vice-premier ministre de l'Intérieur et adresse une question orale avec débat au ministre des Finances. Ces députés d'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi reprochent au vice-premier ministre des propos outrageants à l'égard des députés provinciaux. Notamment, il exige par ailleurs des explications du ministre des Finances sur l'inexistence des directions générales de régie financière dans 15 provinces créées en 2015. Jackson Haoussé est au micro de Michel Kifindangoy.
Nous sommes à une session purement de contrôle. C'est pour cette raison que je venais de déposer une interpellation contre le ministre de l'Intérieur, parce que nous on a trouvé vraiment incohérent, grave, même outrageant, ce qu'il a dit à propos des députés nationaux, des sénateurs, des députés provinciaux. Il a même mêlé le nom du président de la République dans sa communication. Et nous l'appelons au niveau de l'Assemblée pour qu'il vienne donner des explications supplémentaires, nous dire ce qu'il a voulu dire exactement. Ça c'est par rapport au ministre de l'Intérieur. Et pour le ministre des Finances, c'est très grave. Parce qu'aujourd'hui, nous avons 26 provinces. Mais dans ces 26 provinces, il y a plus ou moins 15 provinces qui n'ont pas de direction provinciale de régie financière. Je me pose la question, comment le ministre des Finances fait pour calculer la rétrocession à ces provinces? Moi, je trouve que ce n'est pas normal. Pour moi, c'est vraiment un dysfonctionnement planifié. Et pour cette raison, j'ai demandé au ministre aussi de venir nous donner des explications. Parce que la DGI, la DGRAD, la DGDA, dans chaque province, nous devons avoir une représentation provinciale de manière à permettre aussi la mobilisation des ressources pour que nous soyons capables de financer financer les charges de l'État.
Retrouvons à présent François-Xavier Mibé pour la suite de notre série de reportages consacrés à l'industrie du textile congolais. Dans la province du Tanganyika, la société Filature et Tissage Africain Filtisaf fait partie d'anciennes sociétés qui ont fonctionné par le passé en RDC et plus particulièrement à Kalemie. Après des années de production, le complexe textile de la Filtisaf est aujourd'hui resté l'ombre de lui-même. 30 ans après la mise à genoux de la société, est-ce possible de redémarrer la Filtisaf aujourd'hui? Je vous propose un élément de réponse avec François-Xavier Mibé.
C'est vers les années 1980 que la Filtisaf a repris à son compte l'exploitation des champs de coton de l'ancienne Kotonko dans la région couvrant les territoires des Nyunzu, Kongolo, Kabalo, Manono et Uvira. La société Filtisaf a été reprise vers les milieux des années 80 par le groupe Unibra, pour être ensuite cédé à l'État zaïrois sous Mobutu au début des années 1990. Une année qui marque le début de la faillite de la Filtisaf. Un agent de cadre et contremaître au département des tissages, Prosper Katato Kiwele, rappelle.
Les Belges s'étaient fixés de travailler ici pour une durée de 30 ans. Et après, sachant que 30 ans, l'usine a vieilli, alors ils voulaient déjà se retirer. Avec la production qu'ils avaient eue, ils se sont créés d'autres sociétés chez eux et au nord de l'Afrique.
30 ans après la mise à genoux de la société, est-ce possible de redémarrer la Filtisaf aujourd'hui? Le président du comité de maintenance, Louis Kakoudji, en reste pessimiste.
Toutes les machines que vous voyez là-bas sont déjà dépassées techniquement. La technologie sur le plan textile a déjà évolué. Il faut moderniser l'usine.
Kalemi, François Djabembe, Radio Okapi.
En santé, 2 enfants sur le 10 programmés dans le cadre de la campagne Opération à cœur ouvert ont été opérés le lundi 21 et hier mardi 22 mars au centre de chirurgie pédiatrique de la clinique Ngalema. Le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention a lancé officiellement cette campagne en assistant à cette opération. C'est une première en RDC, en Afrique centrale, rendue possible grâce au partenariat entre le gouvernement congolais à travers le ministère de la Santé et la chaîne de l'espoir Belgique. Jean-Pierre Elali signe ce reportage.
Le ministre de la Santé publique a lancé officiellement la campagne Opération à cœur ouvert, menée par une équipe de médecins belges, conduite par le professeur Jean Roubaix et des spécialistes congolais. Le ministre Jean-Jacques Mbungani.
Mais il était vraiment important qu'au niveau du gouvernement, qu'en ma qualité de ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, que je vienne voir de visu, c'est que la chaîne de l'espoir est en train d'effectuer en compagnie des médecins, chirurgiens et le staff médical congolais. C'est important parce que c'est la première fois qu'en RDC, les enfants sont opérés du cœur.
Le professeur Jean Roubaix s'est réjoui de la matérialisation de ce projet.
Ici, c'est la concrétisation d'un projet de longue date qui nous permet aujourd'hui, avec nos collègues congolais, et surtout grâce à eux, d'opérer pour la première fois des enfants au niveau du cœur en République démocratique du Congo. C'est important de le souligner, et c'est la première fois qu'on peut opérer à l'intérieur du cœur. Jusqu'à présent, on opérait à l'extérieur du cœur.
Pendant cette première phase de l'opération à cœur ouvert, 10 enfants congolais vont subir cette épreuve médicale, dont 8 à la clinique Ngaliema à Kinshasa et 2 autres en Belgique.
Actualité internationale. Au moins 34 personnes, dont 2 soldats, ont été tuées dimanche par des hommes armés au cours des plusieurs attaques menées dans le nord-ouest du Nigeria, ont déclaré hier mardi les autorités locales. 2 militaires figurent parmi les 34 personnes tuées dans les attaques menées par les assaillants non identifiés dans 4 villages situés dans la zone de Kaoura, a déclaré le commissaire à la sécurité intérieure de l'État de Kaduna. Alors que les négociations de paix s'enlisent entre l'Ukraine et la Russie, le prix du pétrole poursuit sa hausse. Les Occidentaux devraient se réunir cette semaine pour réfléchir à sanctionner encore plus la Russie. Un éventuel embargo européen sur les pétroles russes revient sur la table. Or, jusqu'ici, le 27 apparaissait divisé pour sanctionner le secteur des hydrocarbures russes, très important pour l'économie de la Russie.
L'invité.
La première conférence sur la gestion des volcans des Virunga qui s'est tenue à Goma a vécu. Nous recevons dans ce journal le ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique, José Mpanda, nous livre ses impressions en rapport avec ses assises dans cet entretien accordé à Mathieu Ilunga depuis Goma.
Monsieur le ministre, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de terminer la première conférence internationale sur la gestion de risques de volcans de Virunga avec les experts et bien d'autres acteurs. Êtes-vous satisfait des résultats de ces assises?
Oui, j'ai la grande satisfaction d'abord de l'initiative de cette conférence et même de la convocation de cette conférence et même du déroulé de travaux. Il faudrait qu'on applique maintenant les recommandations qui sont ici de cette première conférence internationale sur la gestion et la prévention des volcans qui a réuni les experts nationaux et internationaux pour que nous puissions arriver, chaque partenaire concernant ces recommandations, on doit exécuter. Nous, à notre niveau, nous sommes satisfaits, mais il faut faire le suivi des recommandations pour leur application.
Vous êtes satisfait, mais... Nous avons lu un tweet des agents de l'OVG, Observatoire volcanologique de Goma, adressé au président de la République et au Premier ministre, où ils disent qu'ils n'ont pas été associés à cette conférence. Ils se prévalent même être les experts appropriés pour ces assises. Votre réaction?
D'abord, je voudrais préciser. C'est pour la première fois qu'en RDC, on organise une grande conférence internationale sans appui de l'extérieur. Puisque le président de la République tient à la sécurité de la population du Nord Kivu. Il n'y a pas seulement la guerre de Beni, il n'y a pas seulement la guerre d'Ituri, mais l'éruption volcanique, c'est aussi une guerre qui nous guette puisqu'on est appelé éternellement à vivre avec elle. Alors qu'on a tweeté, les DES, les directeurs scientifiques étaient en train d'intervenir quand on faisait les tweets. Là, il faut faire les nuances. Les observatoires du monde qui existent dans d'autres pays, dans tous les pays où il y a les volcans, il n'y a jamais eu un pléthore comme il existe ici. En 2019, j'ai trouvé plus de 317 agents. Alors que dans d'autres centres, par exemple au Japon, il n'y en a que 8. Ici en Égypte, il n'y en a que 13. Ici, il y avait 340 d'agents pléthore occasionnés par nous les politiciens. Pour les tweets qu'il y a eu, moi je ne peux pas amener les infirmiers, les dactylographes, les secrétaires, les gens qui n'ont rien à voir avec la volcanologie, aller faire une discussion scientifique avec les autres volcanologues du monde. Ça serait insensé. Ça va être irresponsable pour moi. Je voudrais seulement dire, ceux qui ont tweeté, ce sont des infirmiers, les dactylographes, les secrétaires de bureau, qui ne peuvent pas aller faire la discussion internationale scientifique avec les scientifiques du monde pour arriver à trouver des réponses à la gestion du volcan.
Vous l'avez cité, le professeur Patrick Allard, nous l'avons suivi comme président de l'Association mondiale des volcanologues. Il avait fait une déclaration dans la salle que l'Afrique et particulièrement la RDC n'est pas représentée dans cette association. Et pourtant, nous avons deux volcans plus actifs comptés parmi les 10 du monde, le Nyiragongo et Nyamulagira. Qu'allez-vous faire rapidement, monsieur le ministre, pour corriger cette erreur?
Quand M. Patrick a pris la parole pour dire que l'Afrique n'est pas représentée au niveau international, le ministre de la recherche scientifique que je suis a pris la parole pour dire quelles sont les conditions pour que, même si l'Afrique n'est pas représentée, mais nous avons les volcans les plus actifs du monde, notamment Nyiragongo, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on participe? Et M. Patrick a répondu, la RDC dirigée par Félix-Antoine Tshisekedi, pour le moment, va être représentée à ce niveau-là, puisque nous avons le potentiel que représentent les volcans, n'est pas seulement négatif, mais le potentiel est lié aussi aux valeurs touristiques, aux valeurs des terres, les conséquences qui sont liées par les volcans, n'est pas seulement pour tuer. Nous devons gérer pour qu'il n'y ait pas de conséquences comme ce qu'on a décrié, les morts qui sont arrivés aux élections de 2021. M. Patrick a répondu, désormais, nous sommes membres, c'est pas l'Afrique, la RDC, sous notre initiative, est membre. Nous allons pouvoir nous représenter avec nos scientifiques, mais qu'on ait déplacé un président international, des volcanologues du monde, qui viennent au pays, désormais, que la RDC, les scientifiques congolais sont représentés sur le plan international dans la gestion des volcans.
La population de Goma pourra-t-elle vous applaudir prochainement lors d'une éventuelle éruption grâce aux recommandations de cette conférence? Parce que la gestion de l'éruption de mai 2021, admettons-le qu'elle n'a pas été à la hauteur.
Nous ne pouvons pas dire qu'en 2021, ce qui est arrivé était complètement mal géré. Ayant compris qu'il y a eu des défaillances dans la gestion de l'éruption volcanique de 2021, c'est pour cela qu'on a fait cette conférence. Nous pensons que les différentes recommandations, si nous arrivons à les appliquer normalement, si le plan de contingence, si le plan de la gestion de la population, si le plan de renforcement des capacités des scientifiques, si le plan des moyens qu'il faut mettre à la disposition de l'OVG pour surveiller à temps réel, avec l'internet, avec tout ce qu'il faut, si on arrive à disponibiliser tout ça, il n'y aura pas de problème. Tant que gouvernement, nous anticipons qu'éventuellement, si ça peut venir, qu'il y ait la bonne gestion.
Monsieur le ministre, je vous remercie.
Merci beaucoup.
Et c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.